Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct ensemble jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce mercredi 7 décembre avec toute l'équipe du mercredi puisqu'ils sont 6 autour de la table ce soir pour m'accompagner. Salut à tous les 6.
Bonsoir.
Émilie, votre choix de l'actu ce soir.
Une polémique nationale qui collera longtemps à la peau de François Hollande. L'arrestation en 2009 d'une collégienne de 15 ans devant son école afin de l'expulser de France. Cette collégienne, c'était Leonarda, et elle témoigne 9 ans après cette affaire.
Voilà, c'est un reportage, une enquête qui est diffusée ce soir dans Affaires Sensibles à 22h55 sur France. Donc, soit la journaliste et réalisatrice de ce documentaire qui revient sur ce fait divers qui avait fait trembler la présidence Hollande. Mohamed, votre story ce soir.
C'est l'événement de cette Coupe du Monde, la qualification du Maroc contre l'Espagne hier, le premier quart de finale de l'histoire du Maroc, de Rabat à Casablanca, en passant par Paris. On a vu des célébrations magnifiques. On va les revoir, on y était sur les Champs-Elysées, c'était assez magique.
Oui, Amar y était, pour C'est à vous. Patrick, votre édito
Le début
soir.
Cette semaine d'une convention citoyenne pour réfléchir à une évolution de la loi sur la fin de vie et la possibilité d'autoriser une aide à mourir. C'est un débat complexe et passionnel, je vais essayer d'en tracer quelques enjeux.
Et puis on en parlera avec nos invités ce soir. Le professeur Régis Aubry, médecin-chef en soins palliatifs à l'hôpital de Besançon, rapporteur de l'avis du Comité consultatif national d'éthique, et Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Mathieu dans le 5 sur 5.
Il y a 35 ans, on proposait une dictée à des élèves de CM2. 35 ans après, la même dictée. Figurez-vous qu'il y a deux fois plus de fautes. On va essayer de comprendre pourquoi le niveau en orthographe baisse et puis de parler de la dictée avec Rachid Santaki, qui est un journaliste, romancier, entrepreneur et qui a écrit une dictée peut tout changer. C'est un fan de dictée.
Oui, puis voilà. On a tous fait la dictée. Et je peux vous dire qu'il y a des bons élèves et il y a des moins bons élèves dans l'équipe de C'est à vous. Pierre, votre œil ce soir.
On va fêter un magnifique quinquagénaire. C'est l'album de Neil Young qui fait l'unanimité depuis son arrivée il y a 50 ans. Il a donc 50 ans, d'où mon œil ému.
Oh, on aime bien quand vous avez l'œil ému, Pierre. Et puis on reçoit une formidable comédienne qui fait le plein tous les soirs au théâtre de la Porte Saint-Martin. Chantal Latsou nous ramène dans les années 80, on adore ça. Et puis on a le plaisir d'accueillir Pomme, la jeune chanteuse qui est fan de champignons. Il y a des champignons absolument partout sur la scène de C'est à vous. Elle sera en live pour nous présenter son album Consolation. Et nous, je ne vous ai pas oublié, Sandrine. Parce qu'il y a le mercredi, c'est le jour de la chronique enchantée.
Absolument. Et moi, je reviens aussi en 1983 avec Chantal Latsou. Et c'est certainement l'époque de votre première boum, Bebette.
Non, j'étais pas précoce du tout sur ce coup-là. C'est arrivé bien plus tard. Merci, Sandrine. En cuisine, notre chef Cédric Béchat qui est aux côtés de Bertrand Chamerois. Est-ce qu'il y a des champignons ce soir au menu?
Alors non, pas de champignons, mais bonsoir, Babette. Est-ce que vous aimez le poisson?
Oui.
Est-ce que vous aimez le chocolat?
Oui.
Vous battez pas, hein, surtout. Eh bien, ce soir, tira morue. Enfin, c'est le petit nom que j'ai donné au plat de Cédric.
Quoi?
Vous allez voir, c'est assez spécial.
Ah, c'est une belle innovation pour l'appellation, mais c'est la morue. Moi, je l'ai appelée morue chaud cacao parce qu'on a associé la morue, qui est un produit atypique au Pays Basque, qui est culturel, et le cacao qui est arrivé en Europe par Bayonne.
Voilà, donc morue chaud cacao.
Morue chaud cacao.
Merci, chef. Bonne émission.
Merci beaucoup à tous les deux. À tout à l'heure. C'est l'heure de l'édito de Patrick Cohen. Patrick, vous allez tenter d'éclairer le débat qui s'ouvre sur l'accompagnement de la fin de vie.
Oui, sur cette question aussi grave que complexe qui renvoie chacun d'entre nous à des situations ou des souvenirs personnels infiniment douloureux, vous allez entendre parler dans les mois à venir et sur ce plateau, là, dans quelques minutes, de soins palliatifs, de sédation, d'aide à mourir, de pronostic vital à court ou moyen terme, de suicide assisté, d'euthanasie. Et il est important de savoir de quoi on parle.
D'abord, les soins palliatifs.
Oui, c'est le seul point qui fait consensus, malgré une loi vieille de plus de 20 ans, 99, qui en garantit le droit d'accès et 5 plans de développement depuis. Ces soins qui visent à soulager les souffrances physiques et psychologiques des personnes atteintes de maladies graves sont toujours très insuffisants. Les soins palliatifs prennent en charge environ 100 000 patients par an. La Sécurité sociale évalue les besoins à 300 000. Il ne faudrait pas seulement renforcer les moyens, souligne le comité d'éthique dans son avis, et vous n'y êtes pas étranger, professeur Aubry, mais aussi donner une culture palliative à beaucoup plus de soignants, ce qui permettrait de répondre, par exemple, au souhait de nombreux Français de mourir chez eux, accompagnés de leurs médecins traitants et d'équipes mobiles de soins palliatifs.
Mais il y a des souffrances insupportables qui ne peuvent pas être apaisées.
C'est ce qu'on appelle les souffrances réfractaires, et c'est ce qui a conduit la loi Claeys-Leonetti de 2016 à permettre non pas de faire mourir, mais de laisser mourir un malade en fin de vie qui le demande ou qui a laissé des directives, ou en dernier ressort avec un collège de médecins qui peuvent décider de stopper ses traitements, de le placer sous sédation, c'est-à-dire de l'endormir profondément, sans perspective de réveil, jusqu'à sa mort censée être imminente, car c'est dans la loi pour que la sédation soit déclenchée. Le pronostic vital doit être engagé à court terme, c'est-à-dire quelques heures ou quelques jours.
Mais ça ne se passe pas toujours comme prévu.
Non, pour reprendre l'expression d'une étude du Conseil d'État, il y a des mourants qui n'en finissent pas de mourir. Mais contrairement à ce qui est souvent dit, la loi actuelle permet bien d'abréger une agonie. Article 4 de la loi Claeys-Leonetti, le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade, même s'ils peuvent avoir ces traitements comme effet d'abréger la vie. Donc si la loi interdit l'euthanasie, elle n'interdit pas au médecin d'accélérer une mort inéluctable. En revanche, la loi ne permet pas de répondre aux demandes d'aide à mourir de patients qui ne sont pas en fin de vie. C'est l'une des raisons qui ont conduit le Comité national d'éthique à ouvrir la voie à une aide active à mourir pour des malades dont le pronostic vital est engagé non plus à court terme, mais à moyen terme, sans doute quelques mois.
En autorisant le suicide assisté ?
Oui, ou assistance au suicide, c'est l'une des options. Le malade s'administre lui-même le produit létal. Le médecin ne participe que de façon passive. Il a fourni le produit. Il n'y a pas d'acte médical qui donne la mort.
C'est toute la différence avec l'euthanasie.
Voilà, exactement, qui suppose l'intervention délibérée d'un tiers médecin ou association dédiée pour administrer un produit conduisant au décès. Ce qui, d'ailleurs, il faut le souligner, se fait en France, c'est souvent dit clandestinement et depuis longtemps. Une étude de l'INED, on n'en a pas de plus récente, l'Institut d'études démographiques, réalisée il y a 10 ans, estimait que 0,8% des décès en France survenaient par voie d'euthanasie.
Et chez nos voisins européens ?
Pays pionnier, la Suisse, où l'assistance au suicide est dépénalisée depuis plus d'un siècle, sans qu'il n'y ait jamais eu d'ailleurs de loi spécifique. 1600 personnes ont fait appel l'an dernier au service d'assistance à la mort, comme Jean-Luc Godard, en septembre, le cinéaste qui n'était pas malade, en tout cas il n'était pas en fin de vie, mais voulait simplement en finir, c'est ce qu'on dit ses proches ensuite. Le suicide assisté et ou l'euthanasie sont autorisés au Luxembourg depuis 2009, en Espagne depuis un an et demi, en Autriche depuis le début de l'année, le Portugal pourrait être le prochain sur la liste puisque le processus législatif vient d'être réactivé. Enfin, deux pays proches viennent de célébrer les 20 ans de leurs deux lois légalisant l'euthanasie, les Pays-Bas et la Belgique. 4800 euthanasies l'an dernier aux Pays-Bas, près de 5% des décès, 2700 en Belgique, ce qui fait que dans ces deux pays, tous les jours, une vingtaine de personnes meurent par choix avec l'assistance d'un médecin.
Puisqu'on parle de l'Europe, est-ce que la France est en retard par rapport à nos voisins européens ? Jonathan Denis.
Je pense que ce qu'a dit Patrick Cohen, et c'est très clair, ça prouve que la France, effectivement, a un retard. Vous l'avez dit, la Belgique, ça fait 20 ans qu'ils ont une loi. On entend tout et n'importe quoi sur la Belgique. Mais ils ont fait trois lois, droit des patients, accès universel aux soins palliatifs et dépénalisation de l'aide active à mourir. Et nous, en France, depuis 20 ans, on fait toujours des petits pas. Alors, on demandait à ceux qui avaient mis les lois en place de réévaluer leurs lois, etc. Et finalement, on se retrouve toujours avec cette demande qui existe, qui est une demande, effectivement, de patients dont le pronostic vital est engagé parfois à moyen terme, parfois aussi à court terme, mais de pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir et pas simplement d'une sédation. Vous l'avez très bien dit, ça peut durer longtemps des sédations. On le voit parfois plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, et ça, on ne peut pas le tolérer dans notre République laïque.
Professeur Aubry, on a raison de prendre notre temps en France et d'avancer à petits pas, malgré tout. C'est une question qui mérite une longue réflexion, un débat apaisé.
Je pense qu'on a toujours raison de prendre du temps pour les choses sérieuses dans la vie. Mmh. Et c'est une chose sérieuse. Et je crois que, effectivement, la comparaison avec des législations dans d'autres pays est intéressante, mais trouve aussi des limites, puisque les législations sont adaptées à des histoires, à des cultures qui sont différentes. Néanmoins, à mon avis, s'interdire d'évoluer serait une forme de mort, en quelque sorte. Mmh. Et donc, il est important, à mon avis, de comprendre aussi ce qui a changé et qui fait qu'on aborde
changé,
les choses autrement.
C'est les progrès de la médecine, notamment, qui rendent nécessaire une nouvelle loi.
Oui, c'est d'ailleurs une des raisons principales de l'autosaisine du Comité consultatif national d'éthique. On fait le constat que, corrélativement au progrès de la médecine, qu'on ne peut pas nier, enfin, je pense que, sauf à être révisionniste, on ne peut pas les nier, il y a une espèce de zone, un angle mort, en quelque sorte, du progrès, qui est le fait que l'on peut aujourd'hui contribuer à augmenter l'espérance de vie avec une maladie, avec un handicap, avec une dépendance, avec une perte d'autonomie, et que ces questions peuvent parfois générer un questionnement sur le sens de ce que vivre peut vouloir dire. C'est à ce moment-là qu'apparaît, à mon avis, c'est rare, mais ce n'est pas parce que c'est rare que ça ne doit pas être abordé, la question du désir de mort.
C'est en ça que la loi actuelle est imparfaite, puisqu'elle s'adresse principalement, Patrick l'a rappelé, à des malades dont le pronostic de vie est à très court terme.
Oui, c'est la limite du droit actuel qui probablement n'avait pas investi correctement cette notion dont je vous parle, c'est-à-dire le corollaire des progrès avec une augmentation importante des situations de survie dans des conditions qui parfois posent question.
Le débat s'est installé depuis plusieurs années. Jusqu'où faut-il aller en France alors que l'euthanasie et le suicide assisté sont des pratiques illégales, passibles de poursuites pénales? Il y a un an, sur ce plateau, Françoise Fabian témoignait du geste qu'elle avait accompli pour son père.
Je veux défendre l'euthanasie. L'euthanasie choisie. Moi, ma mèche blanche, c'est l'euthanasie. J'ai euthanasié mon père. Et le lendemain, j'avais une mèche blanche comme ça. Il souffrait tellement, tellement. Je n'avais rien à lui donner. Et j'étais dans un état de désespoir total. Il me disait, il était paralysé seulement de tout le corps, sauf les mains et le cerveau. Et il me disait... Il me faisait ça, je ne pouvais rien faire. J'étais là avec lui. Et j'ai compris, j'ai dit aux infirmières, écoutez, moi je vais m'occuper de lui. Vous êtes toute seule, je suis là, je suis couchée à côté de lui. J'ai tout de suite compris, je ne lui ai plus donné de médicaments. Au bout de 3 jours, il était mort. J'ai supprimé les médicaments et il a su ce que j'avais fait. Il m'a prise dans ses bras. Il a fermé ses yeux, il m'a embrassée sur les lèvres et il est mort. Eh ben ça, c'est une belle histoire d'amour.
Ces euthanasies cachées existent. Jonathan Denis, c'est aussi un peu l'histoire de votre père qui a voulu maîtriser sa vie jusqu'au bout et qui a demandé à être accompagné, d'être euthanasié, une euthanasie clandestine.
Ouais, je m'en trouve beaucoup dans le témoignage de cette actrice formidable qui est Madame Fabian, où effectivement où mon père avait un cancer généralisé. Et il y a des souffrances réfractaires, il y a des souffrances physiques et psychiques qui lui paraissaient insupportables, puisque c'était lui qui devait pouvoir être maître de son destin. C'est ainsi qu'il se définissait dans la liberté. Et il avait décidé, effectivement, le moment où les choses devaient s'arrêter. Il a fallu connaître le bon médecin, c'était à Montbéliard, près d'où vous avez exercé. Et j'ai attendu que ce médecin décède pour pouvoir en parler, parce que ce médecin a pris des risques énormes. Il aurait pu prendre perpète pour empoisonnement. Et il a aidé mon père, il l'a écouté, et il est parti en quelques instants. Et il y a une préparation incroyable à cela. Ça a permis qu'on puisse se dire des choses qu'on ne s'était jamais dites avant. Ça a permis d'appréhender la mort. Pour moi, c'était perdre un parent, hein, peu importe l'âge. J'avais 24 ans, mais on ne s'y prépare pas. Et ça lui a permis, je pense, d'affronter peut-être un petit peu plus la maladie de façon sereine. Et c'est ce qu'on voit aussi à l'étranger, quand il y a une législation qui peut exister. Vous avez des personnes qui vont s'engager dans cette voie-là, et puis elles sont rassurées simplement de savoir que ça existe, parce que in fine, elles seront respectées. Mon père n'a pas connu ça. Effectivement, il y a eu l'euthanasie clandestine. Monsieur Cohen le rappelait. 0,8% des décès, ça fait quand même 4 500 euthanasies clandestines qui pourraient avoir lieu chaque année dans notre pays, parfois même sur des personnes qui n'ont rien demandé, et ça, c'est inquiétant. Mais quel est le prix à payer pour ces médecins qui peut être terrible s'ils sont dénoncés?
C'était basé sur les déclarations des médecins.
Oui, c'est basé, chiffre, oui. Donc a priori, c'est 0,8, et il y a un chiffre en dessous, c'est 0,2% à qui on n'a rien demandé, oui. Les patients à qui on n'a rien demandé. Et ça, moi, ça m'inquiète également dans notre pays, de savoir qu'on peut euthanasier des personnes sans avoir eu leur avis, sans avoir eu leur consentement, et une loi luttera évidemment contre ça aussi.
On l'a expliqué, mais pour la première fois dans l'avis du 13 septembre dernier, le Comité consultatif national d'éthique a jugé envisageable une aide active à mourir dans de très strictes conditions. Ces différents aides actives à mourir, ça n'a rien à voir avec l'euthanasie ou le suicide assisté.
Le terme d'aide active à mourir est polysémique, c'est-à-dire qu'il recouvre précisément les deux problématiques de l'assistance au suicide et les problématiques de l'euthanasie. Et ce sont deux problématiques qu'il faut aborder, au moins au plan éthique, de façon assez différente. Dans le premier cas, il s'agit d'autoriser, vous l'avez dit, la possibilité d'accès à un produit létal à une personne qui est atteinte d'une maladie grave et incurable. On reste dans ce cadre, bien entendu. Et cette personne, c'est ça qui est important d'ailleurs, prendra ou pas le produit qui lui a été autorisé. Dans le deuxième cas, l'euthanasie, il s'agit de l'intervention d'un tiers qui administre le produit létal, et peut-être cette distinction, le « ou pas » que je nommais, et qui d'ailleurs se réfère à des travaux qui ont été menés en Oregon en particulier, est important et doit nous interroger.
Des personnes qui font la démarche de choisir l'euthanasie ne vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire le suicide assisté, elle renonce à prendre le médicament létal.
Oui, ça interroge beaucoup.
Dans 40% des cas, oui.
Oui, dans près de la moitié des cas, 40% des cas, les gens ne vont pas chercher le produit létal qu'ils avaient demandé et que la législation leur autorise. Et puis un tiers des personnes qui sont allées chercher le produit ne l'absorbent pas. Ça doit nous interroger. Il y a une autre chose qui interroge, et ça rejoint ce que vous disiez, c'est que dans ce pays, l'ensemble des personnes s'estiment très rassurées de savoir qu'ils peuvent avoir accès à cette possibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on va le faire. Et même, il y a quelque chose qui est important à connaître, me semble-t-il. C'est que plus on avance dans la maladie, et en général, et pas sur des situations particulières, mais en général, il y a des travaux de recherche qui le montrent, plus on avance dans la maladie, plus on a tendance à changer souvent d'avis autour de cette question-là. Et finalement, cette question de l'assistance au suicide semble être plus respectueuse, de notre point de vue, au sein du comité d'éthique.
Choix du patient.
Voilà, du choix ambivalent, parfois, jusqu'au dernier moment du patient.
Voilà, et de le respecter jusqu'au bout.
Ce débat sur la fin de vie, ça pose aussi la question des soins palliatifs que l'on propose aux patients atteints de maladies incurables. Alors, il y a des services dédiés à cet accompagnement de patients, comme cet exemple à Limoges.
Le service des soins palliatifs prend en charge des patients en fin de vie ou atteints de maladies graves pour soulager leur souffrance.
Donc essayez de me la décrire en disant est-ce que ça vous brûle, est-ce que ça vous mord, est-ce que ça vous... C'est des coups de poignard, ça vous lance?
Ça me lance. C'est comme si on tirait très très violemment sur des muscles à l'intérieur de ma jambe.
D'accord.
C'est horrible, horrible, horrible. Et ça va jusque dans le pied.
Les soins se font à l'hôpital ou à domicile avec des équipes mobiles. Ils sont dédiés à des situations jugées complexes.
Dans la très grande majorité des cas, la personne qui souhaite mourir parce que c'est le seul échappatoire qu'elle a trouvé pour limiter ses souffrances, les souffrances liées à sa maladie. Si on arrive à à atténuer ou à faire disparaître ses souffrances, on se rend compte que très, très fréquemment, la demande de mort disparaît également.
Professeur Aubry, vous êtes médecin chef en soins palliatifs au CHU de Besançon. Quand on entend ça, on peut dire qu'avant de parler de mort assistée, il faut parler de soins palliatifs. Or, ça a été négligé en France?
Tout est toujours plus compliqué. En réalité, non. Il y a une politique de développement des soins palliatifs depuis de nombreuses années, mais je considère qu'on est au milieu du gué. Et au-delà de la question des structures de soins palliatifs, comme on vient de le voir, il y a ce qu'on préconise au sein de cet avis du Comité consultatif national d'éthique, c'est le fait qu'il y ait une espèce de culture palliative intégrée à la pratique de l'ensemble des professionnels, d'une part. Et quand on parle de culture, ça touche aussi les citoyens que nous sommes. Ça passe par l'éducation, à l'approche de la question de la finitude, en quelque sorte. Et on a le sentiment que notre société est en difficulté avec ce tabou de la mort, qui restera un tabou, même si on en discute, mais qu'elle est en difficulté et que la médecine est devenue très technique, très scientifique, et a oublié, en quelque sorte, les humanités qui constituaient une façon d'appréhender la souffrance d'autrui, de parler à quelqu'un pour lui permettre de dire sa souffrance. Ce qui est dit dans ce court reportage est clair. La très grande majorité des demandes d'aide active à mourir disparaît. s'il y a un accompagnement. Une partie des demandes d'aide active à mourir, en particulier chez des personnes très âgées, est liée non pas au fait d'être malade, mais au fait que l'on les considère comme un problème plutôt que comme une personne, en quelque sorte. Et il y a un sentiment d'indignité. Je m'appuie sur des travaux de recherche pour dire ce que je dis. Il y a un sentiment d'indignité très fort qui peut conduire des personnes à finalement demander à arrêter de vivre parce que le regard qu'on porte sur elles est un regard qui manque de respect, me semble-t-il. Et c'est pour cela que, de mon point de vue, il faut vraiment qu'on n'arrive pas, nous l'espérons, à une loi qui serait une loi sèche. Je pense qu'on ne peut qu'être d'accord là-dessus. Oui. À une loi sèche qui ne s'accompagnerait pas d'une vraie politique, qui dépasse d'ailleurs le champ des soins palliatifs. Et qui est une politique, un engagement de nos décideurs pour l'accompagnement des personnes les plus vulnérables. C'est l'honneur d'une société, me semble-t-il, que de se donner les moyens d'accompagner les gens les plus vulnérables.
Professeur Aubry, j'entends votre ouverture au débat sur ce sujet. Vous êtes un spécialiste des soins palliatifs. Comment se fait-il que la société savante des soins palliatifs, qui s'appelle la SFAP, qui est très représenté, qu'on entend beaucoup sur les plateaux, chaque fois qu'il y a ces débats-là, soit, par principe, hostile à une évolution de la loi et à une aide à mourir.
Ce que je comprends dans cette réalité que vous décrivez, c'est que ce qui se pose comme question, ce qui est posé comme question par les acteurs de la société française de soins palliatifs, c'est la question suivante. Est-ce qu'administrer un produit létal peut être un soin ? Est-ce que la place du médecin est de contribuer à faire mourir ? Et c'est une question, enfin, je pense que ça serait irrespectueux que de dire que ça n'est pas une vraie question. C'est une vraie question. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, très clairement, que vous nous avez lu dans cet avis et nous insistons peut-être plus sur la question de l'assistance au suicide, où c'est finalement le décideur lui-même, le malade. Et avec un investissement moindre des médecins.
Jonathan Denis, sur cette question.
Non, mais vous avez raison de souligner sur la SFAP. Alors, la SFAP ne représente pas tous les soins palliatifs, et j'ai eu l'occasion de le dire. Effectivement, aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'avoir une association militante contre l'aide active à mourir qu'une association qui va nous parler du développement des soins palliatifs, de l'accompagnement, du traitement de la douleur. J'ai beaucoup de respect pour la SFAP. Ça a été ma première décision en tant que président de la DMD. Ça a été rencontrer Claire Fourcade, qui était présidente, qui est toujours présente de la SFAP. Mais dans ce débat, la SFAP veut opposer soins palliatifs et aide active à mourir. On parlait de la Belgique. Qu'ils aillent voir les soins palliatifs en Belgique. Vous le dites, professeur Aubry, mais en Belgique, il n'y a pas uniquement une spécialité de soins palliatifs. Tout le monde peut s'intéresser aux soins palliatifs et c'est pour ça que ça fonctionne. Il faut le rappeler, en Belgique, la moitié des euthanasies se font dans le cadre d'un parcours de soins palliatifs, donc il n'y a pas d'opposition. Et dans l'Oregon, c'est même 95% des personnes qui bénéficient d'un suicide assisté qui ont été suivies dans le cadre d'un parcours de soins palliatifs.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'inquiètent d'une banalisation de l'acte de la mort ?
Alors, moi, j'entends tout, et c'est pour ça qu'il faut qu'une loi soit complète. Oui, au développement massif des soins palliatifs. Plus de 20 départements sans unité, c'est inadmissible. Mais il faut mettre l'argent. Regardez l'Autriche, hein. L'Autriche, plan de soins palliatifs en même temps que la légalisation du suicide assisté, 12 euros par habitant. Nous, notre cinquième plan en France, c'est 2,50 euros par habitant. Comment vous voulez qu'on y arrive ? Donc, oui, un développement massif des soins palliatifs, mais il faut entendre les demandes légitimes pour lesquelles il y a des souffrances physiques, psychiques, réfractaires, et il faut pouvoir les accompagner. Mais il faut entendre aussi la crainte des soignants, et c'est pour ça que moi, dans cette loi, en plus d'une clause générale qu'ils ont déjà, je souhaite qu'ils aient une clause générale, une clause de conscience, pardon, spécifique. Je ne peux pas être un militant de la liberté, je ne suis pas un militant de l'euthanasie, de suicide assisté, je suis un militant de la liberté. Je ne peux pas dire qu'il faut être libre de choisir, et dans le même temps, on impose l'acte. Donc, personne ne sera imposé, personne ne devra bénéficier d'une aide active à mourir s'il n'est pas d'accord, évidemment. C'est un droit qui se créera, qui n'enlèvera rien à personne, mais j'entends les soignants, je respecte les soignants, et il faut les entendre dans le débat, et c'est pour ça que la Convention citoyenne, ça va permettre de le faire de façon apaisée.
D'un mot, si j'ose dire, une loi complète, c'est pour reprendre votre qualificatif, c'est le minimum pour qu'on ait l'espoir d'un débat apaisé.
Oui, je ne m'illusionne pas beaucoup sur la dimension apaisée quand il s'agit de parler de la question de la mort. Vous savez, le problème
qu'on a avec... Je crois que vous êtes d'accord sur cette question.
Le problème qu'on a avec la mort...
Au minimum, il faudra une loi complète pour ça.
Mais on ne peut pas imaginer, me semble-t-il, une loi sèche, comme je vous le disais tout à l'heure. On ne peut pas imaginer que notre société, ça dépasse le champ de la médecine, ce qu'on est en train de dire, on ne peut pas imaginer qu'une société, surtout une société vieillissante, une société qui contribue à générer des situations complexes, laisse tomber en quelque sorte ces personnes, n'accompagne pas les situations complexes qu'elles contribuent à générer. Il y a un vrai problème politique, me semble-t-il, derrière, qui ne peut pas être réduit à une réponse qui serait le droit. Et d'ailleurs, je ne crois pas, je n'attends pas du droit qu'il vienne répondre à toutes les questions singulières, quelle que soit l'évolution du droit. Ça m'apparaît une évidence, de mon point de vue.
Sur le débat apaisé que vous souhaitez, mais qui n'aura pas lieu, sur lequel vous ne faites pas d'illusions, pour conclure, Jonathan Denis.
Il y a deux choses. La convention citoyenne, ça va se passer de façon apaisée. Ça,
c'est à partir de vendredi,
c'est à partir de vendredi,
conclusions au mois de mars.
Après, il y a l'autre débat. Le débat qui se passe sur des plateaux télé, et puis le débat qui va se déplacer dans la rue, parce qu'on le sait, il y a des associations, on les retrouve, hein. C'était le PACS, c'était l'IVG, c'était le mariage pour tous, c'était la PMA. Ils sont là, ils vont organiser des marches pour la vie. Je serais curieux de voir peut-être des alliances contre nature qui vont se passer. J'espère qu'elles ne se passeront pas là-dedans. Mais oui, il va y avoir un choc frontal automatiquement. On touche à l'intime, on touche à l'éthique, on touche à un questionnement personnel. Chacun peut être libre, même pour des questions religieuses, d'être contre si ça le touche personnellement. Mais j'espère qu'on ne va pas partir dans tout et n'importe quoi, comme on l'entend aujourd'hui sur la Belgique, sur les Pays-Bas, et puis sur nous qui serions des dangereux assassins qui voudrions tuer tous les petits vieux, les enfants autistes et compagnie. Voilà, on va partir dans ces mensonges-là, dans l'outrance. Il faut savoir raison garder sur le débat.
Et merci d'avoir montré l'exemple ce soir sur le plateau de C'est à vous en acceptant d'ouvrir tous les deux le débat. Merci professeur Régis Aubry. Je rappelle que vous êtes le rapporteur de l'avis du Comité consultatif national d'éthique et également le président de l'Observatoire national de la fin de vie. Et Jonathan Denis, vous présidez l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, la DMD. Merci beaucoup à tous les deux de votre présence ce soir. Émilie, c'est une affaire qui a profondément marqué les esprits, divisé la gauche et fait trembler la présidence Hollande, l'affaire Leonarda.
Leonarda Di Brani, une collégienne qui a 15 ans en 2009. Elle vit alors avec sa famille dans le Doubs quand un matin, en chemin avec sa classe pour une sortie scolaire à bord d'un bus, la police l'arrête devant tous ses camarades pour l'expulser de France. Une affaire qui aurait pu rester à l'échelle locale, sauf que les enseignants de son collège, scandalisés par cette méthode, écrivent une tribune. S'ensuit presque aussitôt un emballement médiatique.
Et revoilà le dossier des Roms. Polémique ce matin après l'expulsion d'une collégienne kosovare de 15 ans, interpellée par la police alors qu'elle était en sortie scolaire.
La polémique suscitée par l'expulsion de la jeune Leonarda reste vive ce matin.
8 jours après l'expulsion, le 17 octobre à Paris, les lycéens, émus par le sort de la jeune Leonarda et d'un étudiant arménien expulsé au même moment, vont bloquer plusieurs établissements. Le lendemain, le 18 octobre, le mouvement s'embrase. Des milliers de jeunes sortent dans la rue pour manifester.
Extrait du documentaire Affaires sensibles qui sera donc diffusé ce soir sur France 2. Les étudiants dans la rue, là, ne scandent pas seulement non à l'expulsion. Ils réclament aussi la démission du ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls. Une colère qui va se répandre au sein de l'Assemblée nationale, au sein de la majorité PS et au sein même du gouvernement. Espérant rétablir l'unité, François Hollande prend donc la décision de sortir de son silence et prend la parole publiquement.
Et par rapport au cas de cette jeune fille, Leonarda, si elle en fait la demande compte tenu des circonstances et qu'elle veut poursuivre sa scolarité en France, un accueil lui sera réservé. Et à elle seule.
Et à peine finit-il de parler que Leonarda réagit à chaud sur une chaîne d'information en continu.
C'est mort sans mes parents, je pars ça.
Moi,
je remercie M. Hollande, mais sans mes parents, non.
Parce que c'est grave,
je peux pas me débrouiller toute seule, moi. J'ai à peine 15 ans, je peux pas me débrouiller toute seule.
Vous l'avez aperçu dans cet extrait, vous l'avez peut-être reconnu. 9 ans après, le magazine Affaires Sensibles a retrouvé Leonarda. Devenue une jeune femme, elle vit maintenant en Croatie, où elle est mariée, ne pratique plus le français. Mais même si elle a refait sa vie, elle garde un traumatisme assez vif de son expulsion de France.
Je ne suis pas énervée contre la France, mais je suis déçue. On a quand même habité 5 ans là-bas avant d'être expulsée. Je suis déçue de François Hollande. Qu'un homme comme lui ait fait ce qu'il a fait, ça m'a déçue.
Bonsoir Marine Hague, c'est vous qui signez donc cette enquête Leonarda, l'adolescente qui a défié le président, qui sera diffusée ce soir à 22h55 sur France 2 dans le cadre du magazine Affaires Sensibles. Une adolescente, on l'a vu, devenue une jeune femme de 24 ans, qui est mariée, qui vit en Croatie depuis 8 ans.
Exactement.
Et qu'aucun journaliste n'avait réussi à contacter, à retrouver, c'est ce que vous avez fait, par les réseaux sociaux.
Exactement, par les réseaux sociaux. Ça n'a pas été simple parce que vu qu'elle s'est mariée, elle a changé de nom.
Donc il a fallu un petit peu s'accrocher et la vraie difficulté, ça a surtout été après
de la convaincre
de bien vouloir nous parler parce que à l'époque, elle est quand même, elle a été embarquée un peu dans un tourbillon médiatique avec sa famille et ça les a visiblement pas mal marqués et pas forcément dans le bon sens. Donc ils nous ont dit, on accepte de vous parler, mais pas par téléphone, vous venez en Croatie et c'est ce qu'on a fait.
Si vous revenez sur cette affaire, c'est parce que c'est un tournant dans la présidence Hollande. Ce face-à-face à distance que l'on vient de revivre a été politiquement dévastateur pour le président. Vous avez interrogé les ministres au cœur de cette affaire, Manuel Valls à l'intérieur, Vincent Peillon à l'éducation nationale et Jean-Marc Ayrault, Premier ministre à l'époque, et tous vous racontent leur sidération lorsqu'ils regardent ces images à la télévision.
Moi, je l'ai vu dans mon bureau, hein. J'ai regardé ça, j'étais consterné. C'est presque un cas d'école de mauvaise séquence politique. Comment vous planter ? Ce jour-là, on a compris qu'il n'avait pas compris ce que c'était que d'être président de la République.
L'autorité du président de la République est mise en cause par Leonarda. Et c'est terrible.
Vincent Peillon va même jusqu'à vous dire que cette affaire a pesé dans la décision de François Hollande de ne pas se représenter.
C'est ce qu'il a dit. Après, est-ce que c'est réellement le cas ou pas ? C'est en tout cas certainement un des éléments qui a fait que peut-être il ne s'est pas représenté. En tout cas, c'était un symbole un peu de l'image. Enfin, en tout cas, voilà.
De la fonction présidentielle dégradée, ça lui a été énormément reproché. Et ça a été un tournant, en tout cas, dans son quinquennat. Exactement. Ça, c'est une certitude. Pour comprendre pourquoi François Hollande a pris la parole publiquement à la télévision sur cette affaire, il faut remonter le fil de l'histoire. C'est ce que vous faites. Elle est arrêtée le 9 octobre, Leonarda. Le 16 octobre, les médias s'emparent de l'affaire. Le Parti socialiste se divise sur les conditions d'expulsion. Un député PS va même jusqu'à parler de rafle et provoque la division jusqu'au sein de l'exécutif.
Cet argument-là, il est inopérant, parce que si tout est fascisme, et si tout est lié au rafle pendant la période de l'occupation, si tout est inhumain, alors on ne peut rien faire. Je veux dire, c'est alors autant ouvrir les frontières et accueillir tout le monde.
Et la gauche exprime son émotion et même sa colère. Certains même parlaient de rafle, ce qui était peut-être exagéré. Mais en tout cas, une interpellation en milieu scolaire, c'est quelque chose qui était objectivement choquant et inacceptable.
Curieusement, dans notre histoire, c'est pas bon quand on commence à aller prendre des élèves dans les collèges ou dans les écoles, où la police y pénètre.
C'est pas l'expulsion elle-même qui a posé problème, qui a fracturé le gouvernement, c'est le fait que ça se passe dans le cadre de la vie scolaire.
Exactement, et pourtant, il n'y a aucune circulaire à ce moment-là qui interdit d'aller chercher les enfants, même à l'école. Et pourtant, à gauche, ça passe mal de aller chercher cette élève à la sortie du bus alors qu'elle est en sortie scolaire.
Et cette division-là, elle est toujours réelle aujourd'hui ? Jean-Marc Ayrault continue à dire que Manuel Valls était dans la posture et le calcul politique à cette époque.
Exactement, ils n'ont vraiment pas la même vision du tout de ce qu'il fallait faire dans cette histoire-là, puisque Jean-Marc Ayrault est vraiment sur une position où lui voulait que toute la famille revienne en France, qu'on réétudie leur dossier. Manuel Valls, lui, maintenait qu'il ne fallait absolument pas les faire revenir. Donc, ils sont sur deux visions irréconciliables, même 9 ans après.
Et tentative extrême, oui, Patrick.
Oui, non, mais c'est à cause de cette opposition que François Hollande fait
J'en venais.
Ah bon, voilà. C'est ça, non.
Des ministres divisés, et donc un président qui ne va pas les recadrer, qui va essayer d'aller régler lui-même le problème à la télévision.
En même temps.
Exactement. C'est ce que vous dit sans filtre Manuel Valls, son ancien ministre de l'Intérieur.
C'est pas un recadreur en chef. Hein mais bon, il est très respectueux aussi de l'opinion des uns et des autres. Le président de la République, il est gêné sur ces questions de société. Il sait que c'est des sujets de division au sein de la gauche. Il a raison. Il a tellement raison qu'il n'a jamais voulu les traiter au fond, pendant qu'il était premier secrétaire du PS. Et donc il est très mal à l'aise sur ces sujets-là. Donc ce qu'il a envie, c'est que ça passe. Vite, vite, vite. Passons à autre chose.
Un président qui ne s'est pas tranché, qui ne s'est pas recadré, ça lui colle encore à la peau aujourd'hui.
Exactement. Et ça lui a collé à la peau de cette affaire jusqu'à la fin de son quinquennat.
Un président toujours finalement, qui se réfugie dans le compromis, on disait toujours un compromis de fin de congrès. C'est un moment qui a été très peu raconté, cette réunion à l'Élysée, dans le bureau présidentiel, et vous le faites très bien, avec ses ministres. Mais là encore, chacun va camper ses positions, sur ses positions, surtout autour de la question, mais qui va prendre la parole ?
Exactement.
François Hollande doit sentir que s'il me donne la parole à moi, il désavoue Hérault, et s'il donne la parole à Hérault, il désavoue Valls.
Et donc, de manière très curieuse, il nous dit à un moment, alors je vais m'exprimer.
Je dis, mais ça, c'est pas du niveau du président de la République. C'est pas au président de la République de s'exprimer sur une affaire, comment dire, somme toute mineure.
C'est stupéfiant, la décision d'Hollande. On ne se réunit pas à l'Élysée pour faire un truc comme il a fait. Enfin, c'est un truc de fou. Et dans ma tête, vraiment dans ma tête, je me dis, c'est fini. Ben, c'est fini. Je vais prendre des décisions comme ça, on va être laminé par l'histoire.
On va être laminé par l'histoire. Et François Hollande, qu'on a vu beaucoup s'exprimer, commenter l'actualité tous ces temps derniers, là, sur ce coup-là, comme on dit, il n'a pas souhaité répondre à vos questions.
Non.
Ça reste une affaire sensible pour lui.
Ah oui, complètement. Il n'a pas voulu participer au documentaire. Il n'a pas voulu non plus venir en plateau ensuite avec Fabrice Drouel. Donc je pense que ce n'est pas un événement sur lequel il a envie de revenir parce qu'il n'en est pas sorti gagnant.
Il a même été meurtri, ça c'est ce que vous dites. Il a été très meurtri après cet épisode, vous raconte Vincent Payon.
Oui, parce que je pense que il a réalisé quand même que c'était un échec. Et surtout le télescopage de son allocution très solennelle avec cette réponse très vive de Leonarda.
Qui était filmée par les caméras de BFM
oui,
TV.
Exactement.
François Hollande en veut beaucoup, beaucoup à BFM TV, qui est le coupable de cette affaire.
Ah, pour lui, c'est les médias qui ont monté en épingle cette affaire qui sont responsables. Et encore pire que tout, BFM TV qui allait tendre le micro sans délai en direct juste après son allocution. C'est eux les coupables à ses yeux. Plus qu'aucun autre.
Vous demandez à Leonardo si elle regrette d'avoir refusé la proposition de François Hollande. Elle répond que non. Et pourtant, elle vous dit aussi qu'elle a un objectif aujourd'hui, toujours, c'est de revenir en France.
Oui.
Un jour, je vais repartir en France et j'irai voir François Hollande. Pas pour lui parler, mais pour lui montrer que je suis là où il a dit que je n'aurais pas le droit d'être. En attendant, François Hollande a volé tous mes rêves. François Hollande a volé tous mes rêves. Ça, c'est très fort ce qu'elle dit. Leonardo qui pourrait donc revenir en France lorsque la Croatie rentrera dans l'espace Schengen. Savez-vous ce qu'elle espérait ? Est-ce qu'elle espérait en restant en France ? Est-ce qu'elle espère en revenant en France ?
Apparemment, ce qu'elle espérait en restant en France, c'était juste de continuer à s'intégrer. Elle avait quand même des amis, elle allait à l'école, donc elle était bien dans ce pays-là. Et elle commençait en tout cas à espérer pouvoir y rester. Et désormais, je pense qu'elle a envie d'y retourner. J'ai l'impression plus par soif de revanche. On le sent bien dans ce qu'elle dit d'ailleurs. Parce qu'on lui a enlevé, ses rêves, comme elle le dit. Elle dit qu'elle voulait être avocate. Après avoir été expulsée de France, elle n'est jamais retournée à l'école. Elle a quand même réussi à passer un diplôme dans l'hôtellerie-restauration, mais elle travaille, elle a des petits boulots. Donc on est loin de son rêve, effectivement, d'être avocate. C'était son rêve initial.
Merci beaucoup Marine Hag. Leonarda, l'adolescente qui a défié le président, c'est passionnant. Ce soir dans Affaires Sensibles à 22h55 sur France 2, présenté par Fabrice Drouel. Vous restez avec nous pour le reste de l'actualité et la story foot de Mohamed Bouefsi avec un nouveau jingle. Voilà, c'est devenu la story. La story JT du Mondial. La joie du Maroc dans votre JT ce soir.
Oui, il a suffi d'un pénalty tiré comme une feuille morte vers le centre du but.
Ça s'appelle comment en vrai ?
J'allais le dire dans quelques secondes. Je vais refaire la phrase. Il a suffi d'une panenka exceptionnelle pour faire chavirer tout le Maroc. Avec ce geste, Achraf Hakimi, qui joue au Paris Saint-Germain, a permis à l'équipe marocaine de battre l'Espagne. Incroyable destin que celui de ce joueur qui qualifie son pays au détriment de l'Espagne, dont il a également la nationalité. Ah. Il est né à Madrid, dans la banlieue sud de Madrid, à Getafe. À Doha, un supporter particulier, vous allez le reconnaître, s'était glissé parmi les fans.
Ah,
Un Jamel Debbouze en délire avec les supporters marocains à Doha. Le Maroc va donc disputer le premier quart de finale de Coupe du Monde de son histoire. Fou de joie, les Français d'origine marocaine n'ont pas mis longtemps à rejoindre les Champs-Élysées pour partager ce moment devant la caméra de Louis Amar et d'Anaïs Recouli.
À gagner, c'est une victoire historique et on s'attendait pas à ça et du coup on est vraiment très très content.
Très heureux, ouais, on est franchement, très heureux, on fait tout ça.
Incroyable, voilà, on a gagné.
J'ai stressé toute la journée, on a raté les cours, pour le match on a gagné et la fierté, on va gagner contre le Portugal.
Voilà. Je suis joyeuse, très contente, le Maroc a gagné.
On a éminé le premier favori pour la Coupe du Monde et vivement le Brésil en finale.
Oui, il y a une fausse information. On ne va pas gagner contre le Portugal.
Pas sûr. On verra pour le peuple marocain. En tout cas, pour vous, cette qualification, c'est peut-être une surprise. Mais pour le milieu offensif de l'équipe du Maroc, Sofiane Boufal, beaucoup moins, il l'avait prédit il y a 3 mois.
Tu vas me prendre pour un fou, mais vraiment. Mais je pense que si on passe les poules, et on va passer les poules, Inch'Allah, on va aller en quart de finale, on va être la surprise. On va faire, tu vois, Trabès, ils ont fait Ghana en 2010.
Ouais.
On va faire comment?
On a réussi à joindre Sofiane Boufal, le joueur d'Angers, aujourd'hui. On a même retardé sa séance de récupération avec le staff du Maroc. Même s'il avait annoncé ce parcours, on l'avoue, il nous l'a avoué qu'il avait vécu hier le plus grand moment de sa carrière.
Honnêtement, c'est des émotions incroyables. J'ai rarement vécu ça dans ma vie. On était, la joie était à la hauteur du stress qu'il y a eu pendant le match. C'était vraiment incroyable. On commence à se rendre compte de ce qu'on fait et qu'on est en train d'écrire l'histoire. C'est des sentiments indescriptibles parce que c'est dur à expliquer tellement c'est incroyable.
Alors, qui imaginerait Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées pour célébrer une qualification en quart de finale, c'est-à-dire après le match contre la Pologne? Personne. Eh bien, au Maroc, l'événement est tel que le roi Mohamed VI, lui, est allé festoyer dans les rues avec les Marocains.
Festoyer. Oui, ça s'appelle du festoyage driving.
Oui, il a quand même ouvert la fenêtre un moment, il a sorti la main, il a fait un gros coucou.
Ah oui, c'est un roi, quoi.
Oui, c'est un roi, voilà.
Il a festoyé de la main, quoi.
Il a festoyé de la main, voilà. En tout cas, samedi, la France va affronter en quart de finale l'Angleterre et le Maroc, le Portugal. On pourrait donc avoir, si tout va bien, en demi-finale,
je comprends pas bien si tout va bien.
France-Maroc, ce qui fait déjà saliver Sofiane Boufal.
Nous, les binationaux, qui sont nés en France, on attend tous... ce serait un rêve de faire ce match-là, quoi. Ce serait un bon clin d'œil pour nous. Et de toute façon, pour arriver au bout, il va falloir battre les plus grandes équipes et battre le champion en titre. Enfin, bien sûr que je suis pour la France contre l'Angleterre et je leur souhaite de les battre et de nous aussi arracher cette victoire et de les jouer en demi-finale.
Le rêve de Sofiane Boufal pour le peuple africain, une qualification, une victoire contre le Portugal et une qualification en demi-finale, ce qui serait la première qualification d'un pays africain en demi-finale de Coupe du Monde. Et qui sait, peut-être samedi soir, un France-Portugal. Un France-Maroc.
Ah voilà, donc... Non, parce que si tout va bien, il y aura un France-Maroc. Si tout va bien, il y aura...
Pour Sofiane Boufal.
Et puis si tout va mal, comme dit Patrick, il y aura un...
Portugal-Angleterre.
Voilà. Ni France, ni Maroc. Et ben voilà, bon, bonne chance à tous, voilà. Et on reviendra là-dessus lundi.
Lundi.
Exactement, merci
avec
beaucoup Mohamed.
Avec l'affiche de la demi-finale.
Exactement. Tout de suite, le 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. Merci.
Moi, je t'en prie.
Trop d'honneur.
La COP, tous les soirs, la COP 15 s'ouvre au Canada. C'est la conférence des Nations Unies pour la biodiversité.
Oui, et d'un mot pour démarrer, c'est une COP qui devait se tenir en Chine. Elle est organisée par la Chine à Montréal parce que la politique zéro Covid, encore elle, empêchait au pays d'accueillir des milliers d'invités étrangers. Politique assouplie aujourd'hui, on l'a appris ce matin. Alors pour dire les choses simplement, la COP 15, c'est comme la COP contre le réchauffement climatique, mais cette fois il s'agit de protéger la biodiversité mondiale, l'ensemble des êtres vivants, les animaux, les plantes, les bactéries même, et les écosystèmes dans lesquels ils vivent, les forêts, les océans. Et dès l'ouverture hier soir, le secrétaire général des Nations Unies a voulu alerter.
Ecosystems have become places of profit. With our bottomless appetite for unchecked and unequal economic growth, humanity has become a weapon of mass extinction. We are treating nature like a toilet, And ultimately, we are committing suicide by proxy.
Vous avez vu, c'est mignon, ils ont mis des feuilles vertes, des plantes partout. Parce que c'est l'enjeu de cette réunion. Plus sérieusement, 1 million d'espèces sont menacées d'extinction. L'humain et ses activités, ce sont les 3/4 des surfaces de la planète abîmées de manière significative. Et selon un dernier rapport de WWF, 69% des populations d'animaux vertébrés ont disparu entre 1970 et 2018. Pour Bruno David, le président du Muséum national d'histoire naturelle, où se trouve la grande galerie de l'évolution, c'est une extinction de masse du vivant qui nous guette.
Je rappelle que dans une salle parallèle à la salle principale de la Grande Galerie, c'est la salle des espèces disparues. Et il y a déjà beaucoup d'espèces.
Il va falloir l'agrandir.
Et je crains que le reste de la galerie devienne, dans sa totalité ou presque, une grande salle, une grande galerie des espèces disparues. Donc il faut qu'on fasse attention. On a les moyens d'agir. On n'a pas tellement de temps pour agir, mais on peut le faire. Ça dépend uniquement de nous. Il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants chaque fois qu'il y a eu l'extinction.
Les dinosaures, a priori, ne sont plus là.
Voilà. Oui. Et plus une espèce est complexe, plus elle a des chances de faire partie des perdants. Et je rappelle juste qu'Homo sapiens, c'est une espèce assez complexe.
Même l'humanité menacée quand on écoute Bruno David. On verra si cette réunion aboutit à un accord de Paris pour la biodiversité ou s'il faudra attendre la COP16. Réponse dans un peu moins de 2 semaines.
Le niveau en orthographe des primaires en chute libre.
En fait, on propose la même dictée à des élèves de CM2 depuis 1987. Et pour la même dictée, on relevait 10,7 fautes en moyenne il y a 35 ans contre 19,4, près du double en 2021. Alors on va essayer... d'aider finalement les enfants en question qui nous regardent, les parents, les grands-parents qui s'arrachent les cheveux avec l'orthographe des plus petits. Mais d'abord, on a voulu tester des Français et s'amuser un petit peu avec vous. Louis Amar et Audrey Payas sont allés poser quelques questions d'orthographe et à quelques Français, à quelques Parisiens dans la rue.
D'accord. Tu sais que pour moi, c'est la deuxième.
Non, moi, c'est la première. Toutes les fleurs que j'ai prises.
J'ai retiré 212 euros, je sais pas.
C'est la première parce que 100 ne s'accorde pas.
Ça, c'est une très très bonne question.
100, c'est invariable. Je suis facilement.
Gros, j'ai l'impression. De base, c'est simple, ça, mais pour moi, c'est la deuxième.
C'est la deuxième qui est bonne aussi.
Parce que c'est une fille, non? Je me suis faite. Non?
Non, c'est la première.
La première.
Pour moi, c'est la première qui est bonne. Les bonnes, parce que le COD est placé avant le verbe.
Et je vais le laisser répondre en premier, peut-être.
Ah, vous abandonnez.
Il y a une règle où on met un S, mais je sais plus c'est laquelle.
Mes parents, ils m'ont toujours forcé à être fort en orthographe. Ma mère me corrige tous mes messages, donc.
Je détestais ça de tout mon être. Et j'ai même eu moins 27.
Il se trouve que je faisais pas beaucoup de fautes. Alors, j'ai dit, tiens, pour une fois, je suis pas trop bête.
Bonsoir Rachid Santaki.
Bonsoir.
Romancier, journaliste, entrepreneur, scénariste, et vous signez Une dictée peut tout changer chez Époque Épique. Pourquoi est-ce qu'on le niveau baisse? Pourquoi on devient nul en orthographe? Alors, est-ce que c'est le cas déjà?
Pas nul, non, c'est plutôt l'environnement est très digital. Aujourd'hui, on est beaucoup sur des vocaux, sur de la vidéo, etc. Donc on a aussi un sujet de concentration. Les plus petits ont un temps, et même les plus jeunes en général, ont un temps de concentration beaucoup plus réduit.
Donc ce sont des fautes d'inattention plutôt que de la méconnaissance de la grammaire française.
Exactement. Et après, il y a l'intérêt de la dictée. La dictée, quand nous, en tant que parents, on va parler de la dictée, mais les enfants, vous l'avez bien vu dans le sujet, sont plutôt réfractaires à l'exercice de prendre le stylo, j'ai mal au poignet, etc. Donc c'est vraiment...
Il y en a qui bloquent vraiment avec la question de l'orthographe. Ils ont peut-être des difficultés particulières avec certains thèmes, comme là, on l'a vu dans cet exercice de CM2, les accords,
etc.,
ouais. en genre, en nombre. Vous avez des trucs?
Je pense que d'abord, c'est un problème d'intimité. Notre rapport à l'orthographe touche à notre histoire personnelle. Et vous verrez que les gens qui vont dire « je suis nul » ou « j'ai pas compris », en fait, sont passés complètement à côté de ça. Et donc, l'idée, c'est d'abord de faire un peu une mini-thérapie et de voir où sont les blocages. Et après, on peut discuter. Donc, je le vois, moi, souvent en atelier, en primaire, justement. On va voir la question, c'est qui n'aime pas la dictée? Vous avez la majorité qui va lever la main. Et ensuite, c'est de savoir, et vous avez tout type de réponse, j'ai mal au poignet, j'ai peur des fautes, la note, etc. Et de les réconcilier.
Et la question de fréquence de lecture, simplement. Plus on lit et plus on mémorise.
Non,
je croyais aussi les phrases et les mots.
Je pense que la lecture, c'est une chose, mais c'est vraiment d'écrire, c'est faire qui permet vraiment de progresser, de maintenir. Lire, ça nous permet de garder un environnement, un lien. Donc, c'est vraiment, je pense, écrire concrètement qui nous permet de savoir comment on écrit ou pas. Après, il faut avoir quelqu'un derrière qui peut nous orienter, nous expliquer. Si on le fait tout seul,
Vous avez clairement fait de la dictée une passion et une spécialité que de la sortir, si j'ose dire, des salles de classe. Alors, notamment ici, on va le voir au Stade de France, vous avez proposé une dictée géante. Vous avez lu aussi des dictées en maison d'arrêt, en centre d'hébergement d'urgence, en entreprise, de façon itinérante, jusqu'à un gros coup, une dictée lue par Thomas Pesquet depuis l'espace.
La mer avait repris son sarclage.
C'était la troisième fois qu'elle plantait des canards rouges sur le talus qui bordait le terre-plein. La sécheresse les faisait régulièrement crever, mais elle s'obstinait. Fin de la dictée pour les écoliers.
Alors, vous dites carrément que la dictée, alors là, on est dans l'espace, mais vous dites que c'est un peu du patrimoine français.
C'est du patrimoine. Quand vous, je me souviens d'un article dans le New York Times où la rédac chef ne comprenait pas cette passion française de se manger une mauvaise note.
Ça n'existe pas dans les pays anglo-saxons.
Ça existe, mais c'est un simple apprentissage. Nous, on a quand même la dictée de Prosper Mérimée avec cette belle histoire de Napoléon III qui aurait fait 75 fautes. On a les lettres des poilus, on a les dicodores. Donc, on a vraiment,
on a l'accord du parti passé aussi, ce qu'on n'a pas les Anglais.
Hein. Voilà, il y a ça aussi. Voilà, on a une langue qui est complexe, qui fait partie des 10 langues les plus compliquées. Et puis, on est un pays de littéraire.
Alors, on a passé des Français qui se trompent avec un ton un peu taquin, un peu moqueur, qui font des fautes. Rassurez-vous, on n'allait pas juste montrer du doigt ceux qui ont du mal à nous répondre, ceux qui ont bien voulu nous répondre, mais Louis Amar, Audrey Payas sont aussi taquins et ils ont posé des questions à l'équipe de C'est à vous.
J'ai retiré 212 euros. Alors, le 100, c'est invariable quand il se termine, mais quand il y a quelque chose après, on l'accorde. Donc c'est la deuxième.
C'est tout, c'est exactement l'inverse.
C'est les fleurs que j'ai cueillies, donc c'est IES.
On n'a pas la règle, mais on a la bonne réponse.
J'ai retiré 212 euros. Là aussi, je ne me souviens plus de la règle, mais moi, je mettrais 200 sans S.
J'ai retiré 200 sans S.
Pourquoi ?
Je me plante. Non, je suis sûre que c'est la première, mais pourquoi, je ne sais pas.
Je me suis faite emporter par le courant.
Ah ouais.
Oui, c'est parce que c'est une fille.
Ah bah non.
Mais bah c'était un piège, j'étais tombé dans, évidemment que c'est la première.
La mauvaise foi de Bertrand.
Vous faites des fautes, vous avez du mal.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, le mot dont je suis le plus fier, je le dis souvent, c'est hippopotomonstro, c'est ce qui pédaliophobie. Je vous
dis
tous.
Tu veux dire quoi?
C'est la peur des longs. Trop mot, des mots trop longs, pardon.
Ah bon,
pas c'est un mot qui n'existe pas.
Pas la peur des hippopotames.
Non, pas du tout. On pense à ça ou d'autres choses. Non, mais c'est un mot qui a été inventé par un présentateur télé en Angleterre en 2007. Donc je vous rassure.
C'est comme supercalifragilistique.
Exactement.
Donc redites-moi.
Hippopotomonstro, c'est ski pédaliophobie. Et pour rassurer les plus petits, on l'apprend ensemble. Et pour le coup, ils se pensent être des cracks en orthographe.
C'est bon. Ah, c'est ça la mini-thérapie, en fait?
Non, ça, c'est la deuxième étape.
Ah ben voilà. Surtout, nous, on n'est pas mauvais en dictée, tous autour de la table.
Je n'étais pas trop mauvais sur le test.
Une dictée. Et
Babette était la meilleure avec Pierre.
Mais Patrick n'a pas fait le test.
Je le dis. Oui, non.
Ben voilà. C'est pour ça, sinon j'aurais été troisième. Rachid Santaki, une dictée peut tout changer, un témoignage optimiste et fédérateur. Une dictée ce soir quand je rentre à la maison. Ils vont être contents. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci beaucoup, Marine Hag. Leonarda, l'adolescente qui a défié le président, c'est à 22h55 sur France 2. Dans un instant, Chantal Latsou, Pomme, les actualités de Bertrand, l'œil de Pierre, le vu et le dîner. Et si j'oubliais quelqu'un, bah tant pis. Ah, Sandrine Saroche. Voilà. Pour la chanson enchantée. À tout de suite.
Avec deux heures.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous. Et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.